Bonsoir, au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je suis Dominique Parent, agente culturelle à la programmation culturelle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Dans le cadre de nos grandes conférences, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Claire de Mazancourt, docteur en écologie de l'Université Pierre et Marie Curie, professeure adjointe au Musée Redpath de l'Université McGill, et membre du comité éditorial de la revue spécialisée en biologie, The American Naturalist. Madame de Mazancourt étudie l'écologie des écosystèmes et développe des modèles théoriques, cherchant ainsi la relation entre des êtres vivants avec leur environnement. Elle expliquera en première partie ce qu'est l'écologie théorique, et ensuite elle nous parlera de l'importance de la biodiversité et de l'impact que sa diminution entraîne sur les écosystèmes. Intitulé « L'effet de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes », je précise que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Science pour tous qui regroupe à elle seule près de 250 organismes œuvrant dans le domaine de la culture scientifique. La mission de Science pour tous est de faire reconnaître et de promouvoir la culture scientifique et technique dans notre société. Je vous rappelle que la conférence de notre invité est enregistrée et sera rediffusée en balado-diffusion et qu'elle sera aussi suivie d'une période de questions. Notez également que notre prochain rendez-vous scientifique aura lieu le 26 février avec le docteur Régent Thomas qui nous parlera d'actions humanitaires en lien principalement avec la lutte contre le sida. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Claire de Mazancourt et vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup, Dominique, et merci de m'avoir invitée ce soir, et merci d'être venue. Donc, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est de l'écologie théorique et de ce qu'on sait sur la biodiversité et l'importance de la biodiversité. Comment on apprend cette importance dans les études d'écologie théorique. Alors, je vais vous donner un petit plan de route. Donc, d'abord, je vais vous présenter l'écologie théorique. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner un petit aperçu historique. Une fois qu'on sait à peu près de quoi on parle, on va parler de biodiversité, qu'est-ce que c'est, et les tendances actuelles de perte de la biodiversité dont vous avez certainement entendu parler. Et on se demandera à quoi sert la biodiversité. Est-ce que c'est important d'avoir de la biodiversité? Est-ce que ça nous sert à nous? Je vais vous donner trois exemples. L'exemple de l'eau potable, de la boréliose, et une réponse à un changement global. Donc, l'écologie théorique, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout le monde a entendu parler d'écologie. Écologie, à quoi on pense ? On pense au recyclage. Sac plastique d'un côté, le verre de l'autre, etc. Si on recherche sur Google, on trouve des images comme celle-ci. Donc, l'étouffement de la planète, on écrase la planète avec nos pneus. On pense, et ce qui vient tout de suite, c'est l'écologie politique, en fait, l'action politique de comment résoudre ces problèmes d'environnement qui nous arrivent dessus. Mais l'écologie, ce n'est pas que ça, c'est aussi une science. Donc moi, c'est de la science de l'écologie dont je voudrais vous parler ce soir. Et donc, l'écologie, c'est une branche de la biologie. En la biologie, on s'intéresse aux êtres vivants. L'écologie s'intéresse aux êtres vivants en relation avec leur environnement. Et leur environnement, c'est souvent d'autres êtres vivants. Et donc, ce qu'on va étudier de façon classique en écologie, c'est ce qu'on appelle des réseaux trophiques. Et donc, c'est les chaînes alimentaires, des plantes qui sont mangées par des herbivores. Ici, un lapin qui mange des plantes. Et donc, on va étudier ce qu'on appelle des populations. Donc, ça va être une population de lapins qui vit quelque part. On va l'étudier en relation avec la nourriture qu'il mange, avec les prédateurs qu'il a, etc. Donc, c'est les interactions entre les espèces et les dynamiques de population auxquelles on va s'intéresser. Donc, ça c'est l'écologie, mais l'écologie théorique. Donc, il s'agit de théorie de l'écologie. Et en fait, l'écologie théorique est à l'écologie ce que la physique théorique est à la physique, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, de formaliser les interactions entre les espèces. On essaye de retirer des règles un peu générales, d'exemples qu'on peut étudier dans la nature. On essaye donc de comprendre les résultats d'expériences qu'on va faire. On essaye de prédire ce qui va se passer en réponse à, par exemple, aux grands changements climatiques qui nous arrivent. Comment est-ce que nos populations de lapins vont pouvoir répondre à ça? Comment est-ce que les plantes vont répondre à l'augmentation de CO2? Est-ce qu'elles vont l'absorber, etc. Donc, il s'agit de conceptualiser tout ça. Et ça passe beaucoup par un formalisme mathématique. Alors souvent, on pense à la biologie comme quelque chose qui n'est pas du tout mathématique. Mais malheureusement, en science, on ne peut pas trop y échapper. Et l'écologie est une des sciences les plus formalistes, en fait, mathématiques pour ça. Donc, je vais vous parler un petit peu des premiers écologistes théoriques. On peut même remonter jusqu'à Fibonacci. Donc, Fibonacci, aussi appelé Léonard de Pise. Donc, c'était un Italien. Et c'est un Italien qui a étudié les mathématiques en Orient. Donc, et il a appris le formalisme arabe, indo-arabe. Et c'est lui qui a ramené ça dans l'Occident. Donc, qui nous a ramené le chiffre zéro, par exemple. Et il a ramené quelque chose qu'on appelle maintenant la suite de Fibonacci. Donc, c'est pas lui qui l'a inventé, parce que ça existait avant. Mais c'est lui qui l'a amené et popularisé dans son livre en 1202, le livre des calculs. Et donc, voilà comment ça marche, cette suite de Fibonacci. Donc, ça commence par f de 0 égale 0. Donc, c'est lui qui a inventé, qui a ramené le 0. Donc, ensuite, le premier terme devient 1. Et pour calculer les termes suivants, il faut prendre le terme d'avant plus le terme encore d'avant. Donc, on commence par 0 et 1. Ensuite, on additionne ces deux chiffres, ça donne 1. On additionne ces deux chiffres, ça donne 2. On additionne ces deux chiffres, ça donne 3, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est la suite de Fibonacci. Quel est le rapport avec l'écologie ? Eh bien, en fait, pour illustrer son propos, il s'est inspiré de populations de lapins. Alors, voilà comment ça marche. C'est une population de lapins un peu particulière parce que c'est des lapins qui ne meurent jamais. On commence avec un couple de lapins, notre premier couple de lapins, qui vient de naître. Et il va mettre 2 mois avant de se reproduire. Donc on commence avec notre population de lapins. Le mois suivant, on a toujours notre paire de lapins. Et le mois suivant, notre paire de lapins va rester encore vivante, mais il aura produit une nouvelle paire de lapins. Le mois suivant, nos deux paires de lapins sont toujours présents. Et en plus, tous les individus, toutes les paires qui étaient là, sont maintenant adultes et se reproduisent et produisent chacun une nouvelle paire de lapins, donc on en a 3, etc. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais en gros, voilà. Et donc là, c'est illustré avec une spirale de Fibonacci où on voit chaque côté des carrés qui est égal à un des nombres de Fibonacci. Et ensuite, on additionne ces côtés pour obtenir le chiffre suivant, etc. Il s'appelait pas, lui, il ne serait pas appelé un écologiste théorique, mais on aime bien l'appeler comme ça parce que, quand même, c'est une suite qui nous donne une idée de la vitesse à laquelle notre population de lapins pourrait croître potentiellement. Le deuxième écologiste théorique dont j'aimerais vous parler, c'est pareil, il ne serait pas appelé écologiste théorique lui-même, mais c'est Malthus. Donc Malthus, en 1798, qui publie son essai sur les populations. À cette époque-là, c'est l'époque des Lumières. Donc il y a des grandes révolutions industrielles. Et tout le monde est absolument optimiste parce qu'on va avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde. L'industrie est en pleine croissance. Les sciences sont en pleine croissance. Tout semble être en expansion. Et donc, la période est à l'optimisme. On se dit, il ne va plus y avoir de famine. Ça, c'est terminé. La science va régler tous nos problèmes. Et Malthus, donc, c'est un économiste britannique et aussi un pasteur anglican. Et dans son livre, il dit, moi, j'aimerais bien que tout soit résolu comme ça. Mais est-ce que quelqu'un peut me répondre et me rendre optimiste? Parce que voilà, ce que je vois, moi, c'est que les populations humaines, comme toutes les populations animales, ont une croissance qu'on appelle géométrique. C'est un peu comme la suite de Fibonacci, ça augmente de façon qui s'accélère avec le temps. C'est cette courbe bleue-là. C'est-à-dire que lui, ce qu'il observe, c'est que la population humaine, elle double tous les 25 ans. Donc au bout de 25 ans, on double, et ça fait une croissance qui va en s'accélérant extrêmement rapidement. Et par contre, ce qu'il voit, c'est que la nourriture, elle n'augmente pas en doublant tous les 25 ans, mais elle augmente pour lui de façon linéaire, donc d'une façon qui augmente de façon régulière, mais pas en s'accélérant. Donc ce qu'il dit, c'est que bon, pour l'instant, tout est beau, mais bientôt, on va se retrouver bien au-dessus en population de ce que l'industrie peut fournir comme nourriture. Et là, les famines vont recommencer. Donc l'influence de Malthus était extrêmement importante. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et c'est ce principe d'augmentation de la population extrêmement rapide qui est la base, en fait, de toute l'écologie, de toute la biologie, et notamment la biologie évolutive, qui dit que si on les laisse se reproduire en ayant suffisamment de ressources, toutes les espèces pourraient augmenter de façon extrêmement rapide. Donc, l'un des objets de l'écologie théorique, c'est donc d'expliquer les dynamiques de population. Et alors là, je vais vous présenter des données qui sont absolument extraordinaires, qui proviennent de la compagnie de la baie d'Hudson. Je ne sais pas si vous connaissez ces données. Oui. C'est donc des données de la compagnie de la baie d'Hudson qui donc récupérait les peaux attrapées par les trappeurs au Canada. Et donc, elle tenait le compte de toutes les peaux attrapées, donc les lièvres à raquettes et les lynx. Et donc, depuis 1840 jusqu'à 1940, on a un répertoire absolument merveilleux de toutes les peaux qui ont été rapportées à la compagnie de la baie d'Hudson. Et ce qu'on voit, c'est des cycles de population qui sont vraiment faramineux et qui sont extrêmement réguliers. Donc tous les 10 ans, les populations crachent et puis récupèrent, remontent, etc. Donc il y a une période de 10 ans et des cycles de population extrêmement réguliers. Donc l'un des objets de l'écologie théorique, c'est d'expliquer comment ça se fait qu'on ait de tels cycles dans ces populations. Alors, on sait bien que les lynx attrapent les lièvres, donc on se dit peut-être que ça a quelque chose à voir avec cette dynamique du prédateur et de la proie. Les premiers écologistes qui ont regardé ça s'appellent Lotka, Alfred Lotka et Vito Volterra. Donc, ils ont publié de façon indépendante en 1925 pour Lotka et 1926 pour Volterra des équations extrêmement similaires qui correspondent à la dynamique d'une proie qu'on appelle grand N et un prédateur qu'on appelle grand P. Alors, je voulais quand même vous montrer quelques équations puisque je voulais vous présenter l'écologie théorique. Ne vous inquiétez pas, ça va être les seuls de la soirée. Donc, si vous ne voulez pas les écouter, vous pouvez boucher vos oreilles. mais je vais quand même vous expliquer de quoi il en retourne. Donc, N, c'est la taille de la population des proies. Donc, c'est nos lièvres. Et dn sur dt, c'est la façon dont ces lièvres, dont cette population de lièvres, va changer au cours du temps. Alors, notre population de lièvres, s'il n'y avait pas de prédateurs, elle augmenterait comme les populations malthusiennes, d'une façon exponentielle. Donc, chaque individu se reproduit régulièrement. Et donc, ça mène à une croissance exponentielle, puisque tous les descendants vont également produire le même nombre de descendants, etc. quoi. Donc, la population croît de façon exponentielle. Mais il y a des prédateurs. Et les prédateurs vont manger nos lapins. Et cette consommation de lapins se fait de façon proportionnelle aux rencontres entre les prédateurs et les lapins. Donc, plus il y a de prédateurs, plus il va y avoir de rencontres avec des lapins, donc plus il va y avoir de cette prédation. Pareil, plus il y a de lapins, plus il va y avoir des rencontres entre prédateurs et lapins, et donc plus il va y avoir de la prédation. Grand P, nos prédateurs, eux, leur population va croître quand ils consomment des lapins. Et ce petit gamma-là qui est devant, c'est la façon dont un lapin se transforme en lynx. Donc, c'est l'efficacité avec laquelle notre prédateur transforme ce lapin en lynx. Et puis, on suppose qu'il a une mortalité. Donc, la mortalité des lynx est simplement proportionnelle à leur densité de population. Jusqu'ici, tout va bien, c'est fini. Donc, pour les maths, vous pouvez déboucher vos oreilles si vous n'aimiez pas ça. Et maintenant, on va juste regarder les résultats de cette dynamique-là. Voilà ce que ce modèle produit comme dynamique. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est de superbes cycles entre les proies et les prédateurs. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces cycles ne sont pas tout à fait en phase. C'est-à-dire que le maximum des proies correspond non pas au maximum des prédateurs, mais au maximum de croissance des prédateurs. Plus il y a de lapins, plus les prédateurs peuvent croître. Mais après, les prédateurs deviennent nombreux, et donc la population de lapins va diminuer. Et quand la population de lapins devient faible, à ce moment-là, les prédateurs, les lynx, n'ont plus assez à manger, ils vont diminuer. D'accord ? Donc c'est ça qui produit ces cycles de population. C'est cette dynamique entre le prédateur et les proies. Alors, quand on compare avec les données, on voit que ça ressemble quand même d'une façon assez frappante. On voit effectivement que les deux courbes sont un petit peu déphasées. Donc, on le voit bien sur la plupart des années. Bon, c'est un petit peu plus flou sur les données réelles, c'est normal. Mais on retrouve vraiment tous les aspects auxquels on s'attend avec cette dynamique prédateur-proie de Lotka-Volterra. Alors, ce modèle de Lotka-Volterra, il est beau parce qu'il est simple, mais évidemment, la réalité, elle est un peu plus complexe que ça. Ce modèle fait des prédictions qui ne sont pas qui ne correspondent pas avec, avec ce qui se passe dans la nature. Donc on sait que ce qui se passe dans la nature est un peu plus compliqué que ce qu'explique ce modèle. Donc en plus des prédateurs, il faut prendre en compte la nourriture des lapins, qui elle aussi va changer en fonction du cycle. Quand il y a beaucoup de lapins, surtout la nourriture en hiver, ça va être les petites pousses de saule et de bouleau qui vont être toutes mangées. Et du coup, les repousses, ensuite, vont être pleines de composés toxiques en défense contre ces lapins. Et ça va expliquer aussi pourquoi le cycle... ça prend tellement de temps aux lapins pour récupérer, pour réaugmenter à la fin des cycles. Et puis, il y a encore des choses qui sont un peu controversées. Par exemple, certaines personnes pensent que le cycle est lié également à des taches solaires. Donc, on a un cycle d'activité du soleil. Et alors, ce cycle a à peu près la même période que les cycles de lapins et des lynx. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains moments dans ce cycle où il y a beaucoup d'UVB qui sont produits et les plantes doivent se protéger contre ces UV. Et quand elles se protègent contre ces UV, elles ne peuvent plus produire leur composé de défense contre les herbivores. Donc en fait, les plantes, elles n'ont pas trop le choix. À certains moments du cycle, elles ne peuvent plus se défendre contre les herbivores et ce serait ça qui expliquerait les remontées des populations de lapins. Donc pour conclure, les prédateurs sont définitivement quelque chose d'extrêmement important pour expliquer les cycles de ces populations. Mais comme souvent en écologie, la réalité est un peu plus complexe. Parce que le problème de l'écologie, c'est que nos systèmes, nos écosystèmes ne sont pas très simples. Donc, si on avait juste trois espèces, ce serait simple, on pourrait dire, voilà, il y a ça qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est que ça m'amène à cette histoire de la biodiversité. La biodiversité est donc une composante absolument fondamentale de tous les écosystèmes qu'on a sur la Terre. Mais la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est la diversité du vivant, comme son nom l'indique, diversité biologique, biodiversité. Et donc, on peut par exemple regarder dans cette prairie, et là, on a une diversité très grande des espèces. Par exemple, les espèces de plantes, on va avoir une soixantaine de plantes dans une prairie comme ça. Et donc, on peut voir la diversité du vivant un peu partout, dans l'eau, dans les arbres, dans le froid, dans le chaud, dans les microscopiques, dans l'aspect microscopique ou macroscopique. Donc on comprend bien ce que c'est que la biodiversité. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on peut la définir à différentes échelles. Donc on peut la définir au niveau des gènes. Par exemple, différents gènes vont donner différents caractères à des individus. Donc là, le renard roux peut avoir des différences de couleurs suivant les gènes qu'il porte. On peut voir la diversité au niveau des espèces. Donc le nombre d'espèces qui est présent dans un système donné, ici différentes plantes. On peut regarder la diversité au niveau des phyla, c'est-à-dire de regarder en fait la diversité en termes de distance génétique entre les espèces. Est-ce que des espèces sont très semblables? Donc elles viennent elles viennent simplement d'évoluer au niveau phylogénétique, ou est-ce qu'elles sont extrêmement différentes et donc leur dernier ancêtre commun est très éloigné. Donc est-ce que c'est des espèces semblables parce qu'elles ont un ancêtre commun très récent, ou est-ce que c'est des espèces très différentes parce que leur ancêtre commun est très éloigné? On peut regarder la diversité aussi au niveau des écosystèmes, donc que ce soit une savane ou une toundra. Donc on a sur Terre des écosystèmes extrêmement différents. Bon, mais quel est le problème de la biodiversité? Donc je vais vous rappeler un petit peu l'histoire de la Terre. Ici, on a des millions d'années en arrière, on remonte le temps. La Terre s'est formée il y a 4600 millions d'années. Donc là, on regarde juste les 600 derniers millions d'années. En 4600 millions d'années, il a fallu presque 1000 millions d'années avant que les bactéries n'apparaissent. Ensuite, il a fallu encore plusieurs milliers d'années avant que les organismes multicellulaires n'apparaissent. Et là, les organismes multicellulaires viennent d'apparaître, ils sont apparus à peu près là. Et puis, ce qu'on voit, c'est que dans le temps, il y a de plus en plus de diversité qui se forme, de plus en plus d'organismes qui voient le jour sur la Terre. Et puis, malgré cette tendance, il y a eu des périodes d'extinction. Donc la première, c'était dans l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années. Un deuxième dans le Dévonien, Permien, Triassique, Crétacé, le fameux Crétacé avec les dinosaures qui ont disparu. Et donc à chaque fois, pour ces extinctions, on a perdu à peu près 30 à 50% des espèces animales qui existaient. Et maintenant, donc on est ici, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On sait que, à cause de nos activités, il y a eu beaucoup d'espèces qui ont déjà disparu, surtout dans les grands mammifères et dans les oiseaux. Et à l'heure actuelle, on pense qu'ils sont extrêmement menacés. Donc à l'heure actuelle, on connaît à peu près 2 millions d'espèces, et on pense qu'il y en a quelque chose entre 3 et 50 millions. On ne sait pas trop. Et si on regarde les listes de l'IUCN, on voit qu'il y a à peu près un amphibien sur trois donc, qui sont menacés d'extinction, un mammifère sur quatre, et un oiseau sur 8. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont assez impressionnants. Et ce qui est nouveau dans cette extinction de masse qu'on prévoit, c'est que cette extinction de masse est causée par une seule espèce sur Terre, donc l'espèce humaine, qui par son activité détruit toutes les autres espèces qui sont présentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est sans précédent dans toute l'histoire de la Terre. Donc si on regarde les extinctions qu'on a grâce à ce qui se passe dans les fossiles, on a des extinctions d'espèces marines et mammifères qui sont à peu près à ce niveau-là. Les niveaux d'extinction actuels sont déjà 100 à 1000 fois plus importants pour les mammifères, les oiseaux et les amphibiens. Et on prédit que ça va encore être multiplié par 10. Donc c'est vraiment une extinction massive dont il s'agit et qui est due à nos activités, principalement les activités de changement d'utilisation des terres, donc conversion de terres à l'agriculture, qui retire des habitats de nombreuses espèces à l'agriculture ou l'exploitation forestière, etc. Celle-là, c'était regardé en termes de nombre d'espèces, mais on peut regarder ça aussi d'une autre façon, en termes de population. C'est-à-dire que si on regarde les vertébrés, on regarde là sur 30 ans, les populations de vertébrés, donc à l'échelle globale, qui ont diminué de 40% en 30 ans, donc ce qui est assez faramineux. Bon, c'est très bien, mais on a vu qu'il y avait déjà eu pas mal d'extinctions dans le passé, à l'échelle de la Terre, finalement. Est-ce qu'il faut s'en soucier de cette biodiversité? C'est-à-dire, de combien d'espèces est-ce qu'on a besoin? Alors, si on veut notre hamburger, il nous faut notre vache. Il faut quand même nourrir la vache, donc on va avoir besoin d'un peu d'herbe. Bon, combien d'espèces avons-nous besoin? On ne sait pas trop. Et c'est un des thèmes de l'écologie qui est de quantifier ça. Ce dont je vais vous parler, c'est les différentes utilités qu'on a de la biodiversité. La biodiversité comme source de bien pour l'humanité, comme héritage naturel. Et enfin, je vais vous parler des services rendus par les écosystèmes aux êtres humains, donc avec trois exemples de services des écosystèmes. Alors, on dépend de la biodiversité pour notre nourriture, donc pas simplement les vaches, mais aussi les fruits et légumes et tout ce qu'on peut consommer. On dépend de la biodiversité pour la fourniture du bois, donc le bois pour le chauffage, pour la construction des maisons, pour le papier. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que le déclin de certaines anciennes civilisations, ou l'extinction même de certaines civilisations, est liée, selon certains, comme Jared Diamond, à la surexploitation de ressources comme les ressources forestières. Et sans ce bois dont on a besoin, dont elles avaient besoin, ces civilisations se sont effondrées. C'est donc l'un des facteurs pour lui d'effondrement de certaines civilisations, comme ce qui s'est passé sur l'île de Pâques, par exemple. Les médicaments. Alors là, j'ai quelques chiffres pour vous. C'est assez impressionnant comment la plupart des produits pharmaceutiques proviennent en fait d'organismes vivants. Par exemple, 41% des produits prescrits aux États-Unis proviennent d'organismes vivants. La plupart proviennent de plantes, certains de micro-organismes ou encore d'animaux. Donc, les médicaments utilisent des composés dérivés de plus de 20 000 espèces. Et dans la recherche contre le cancer, il y a plus de 70% des substances qui sont étudiées en développement proviennent de plantes de la forêt tropicale. Donc, on est vraiment dépendant de la biodiversité pour produire des médicaments. En fait, on utilise des substances qui ont déjà été inventées par les processus d'évolution naturelle pour produire ces médicaments. Donc, c'est vraiment une source d'innovation qui provient de cette biodiversité. Je voulais vous parler de l'importance culturelle de la biodiversité, puisque il faut penser... qu'est-ce que serait une terre où il n'y avait plus de baleines, où il n'y avait plus d'éléphants? Est-ce que c'est ça qu'on veut léguer à nos enfants? C'est un patrimoine qui est important pour l'esthétique, pour le spirituel, pour la santé, pour le récréationnel. Par exemple, il y a une étude qui a montré que dans un hôpital, les patients récupéraient bien plus rapidement s'ils avaient une fenêtre qui donnait sur de la nature, sur une scène naturelle, plutôt que donner sur un mur en briques. Donc, c'est vraiment un aspect qui est important avec la diversité comme ressource. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les services rendus par les écosystèmes. Donc, les services rendus par les écosystèmes, c'est tout ce qu'on utilise des écosystèmes pour notre bien-être. Ça peut être l'eau potable, la régulation du climat, la purification de l'air, la pollinisation des cultures, la régulation des maladies. Et là, je vais vous prendre deux exemples, l'eau potable et la régulation des maladies. Je vais vous donner deux exemples de systèmes où la diversité joue un rôle très important là-dedans. Donc, on va commencer par l'eau potable. Et donc, je vais vous présenter un système. Donc là, on part en Afrique du Sud, dans la région du Cap. C'est l'écosystème du Fynbos. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une végétation très, très basse, d'arbustes et d'herbes. Et c'est une végétation absolument extraordinaire parce que ici, on est juste au-dessus de la ville du Cap. On est dans un parc de 22 000 hectares et il contient plus d'espèces que toutes les îles britanniques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces espèces, c'est des espèces qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent que dans cet écosystème. Et donc la ville du Cap est juste en dessous, 3 millions d'habitants. Et cette ville est en plein développement, évidemment, et il y a besoin de plus en plus de ressources en eau. Et cet écosystème est menacé par des espèces invasives. Ce qu'on appelle les espèces invasives, c'est des espèces qui sont amenées par les activités humaines, que ce soit l'horticulture, le développement forestier, ou par hasard, parce que c'était dans la cale d'un bateau, et qui vont se développer dans les systèmes naturels et déplacer les populations natives des écosystèmes. Donc ici, ce sont des pins et des acacias et des achéas qui sont invasifs. Donc, ils proviennent de l'industrie forestière. C'est des espèces qui sont très utiles pour l'industrie forestière parce qu'elles se développent très, très vite. Mais le problème, c'est qu'elles vont se développer aussi dans des systèmes naturels et transformer ces systèmes d'arbustes en systèmes de forêt. Et ça change énormément le fonctionnement de ces systèmes. Donc là, un modèle de dynamique de population de ces espèces invasives. Donc on connaît leurs caractéristiques démographiques, on connaît les caractéristiques démographiques des espèces natives. Et donc en faisant un modèle de population de ces espèces, voilà ce qu'on obtient. Donc, dans une portion de terrain donnée, on peut voir que les espèces invasives en noir envahissent extrêmement rapidement si on ne fait rien. Quelles sont les conséquences de cette invasion ? Les conséquences sont importantes parce que ce que ça produit, c'est des systèmes de forêt avec une biomasse très importante. Cette biomasse intercepte l'eau et l'empêche de couler vers les sources d'eau importantes pour la ville. Donc ici, on regarde s'il y a la courbe de réduction du débit de l'eau en fonction de la biomasse de la végétation. Donc plus on a d'espèces invasives, plus on a une biomasse importante de la végétation, et donc moins on a de débit d'eau. Et donc, si on regarde l'eau disponible pour la ville, en fonction de ce qu'on prédit comme dynamique d'invasion, on voit que sans espèces invasives, on a cette courbe en haut. Alors, les dents, ça correspond à des feux qui se passe tous les 15 ans. Et avec les espèces invasives, c'est la courbe en dessous. Et on voit qu'on a une réduction de l'eau disponible qui va de 30 à 60% de l'eau disponible. Donc ça, c'était très important parce que pour la ville du Cap, c'est important d'augmenter l'eau qui est disponible pour la population qui est en croissance. Ils ont déjà construit énormément de barrages pour récupérer de l'eau. Et donc, en construire un nouveau barrage, ça coûte énormément d'argent. Et donc, grâce à cette étude, ils ont déterminé que c'était plus avantageux, en fait, de s'attaquer au problème des espèces invasives, de contrôler leur population pour maintenir la disponibilité en eau dans ce système. Donc, cette étude a donné... a été importante pour développer ce programme qui s'appelle Working for Water. Donc, un programme qui a été mis en place en 1995 pour contrôler les plantes invasives et permettre de garder les ressources en eau et également les ressources de biodiversité qui sont une source de revenus importante pour ces systèmes en Afrique du Sud. Donc depuis le début du programme, il y a eu 1 million d'hectares qui ont été traités. Ça a créé 20 000 emplois. Et donc on voit que l'écologie n'est pas forcément contraire avec l'économie et qu'elle peut permettre le développement en même temps que résoudre des problèmes qui sont importants pour le bien-être des populations, donc les ressources en eau. Donc, ce n'est pas simplement les pins et les acacias qui ont été traités, mais aussi d'autres plantes invasives. Ici, on voit des gens qui retirent les jacinthes d'eau, qui sont une espèce invasive absolument terrible, qui recouvre toutes les surfaces d'eau. Donc, voilà pour cet exemple. Maintenant, je vais vous parler de la régulation des maladies. Alors, cette fois, on part aux États-Unis. Je pense qu'on a ça aussi ici, la boréliose. Ça fait pas très longtemps que je suis ici, donc je ne l'ai pas encore rencontrée ici et j'espère que je ne vais pas la rencontrer. Mais donc, la maladie de Lyme, boréliose, comme vous le savez tous, c'est une maladie pas très sympathique. Si elle n'est pas traitée, c'est une maladie dégénérescente, donc avec des conséquences qui sont irréversibles. L'un des premiers symptômes, c'est ce petit rond autour d'une morsure de tique. Donc voilà les tiques responsables de cette maladie. Donc les tiques peuvent être porteurs d'agents pathogènes que voici. Donc ça, c'est Borrelia burgdorferi. Donc, c'est l'agent pathogène qui cause cette boréliose. Et cet agent pathogène est présent dans les populations de souris à pattes blanches. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les tiques attaquent les souris, mordent les souris, elles peuvent récupérer cet agent pathogène, le transmettre dans les populations de souris et le transmettre aux hommes quand elles nous mordent. Voilà pour les protagonistes principaux, mais ce n'est pas le tout, parce qu'il y en a d'autres. Parce que les tiques n'attaquent pas simplement ces souris, mais elles attaquent aussi des écureuils, des tamias, des chevreuils, des oiseaux qui nichent au sol, des moufettes, des ratons laveurs, des lézards, des opossums. Et donc on voit qu'il y a toute une diversité d'hôtes que la tique peut attaquer. Donc ce qu'on va se demander, c'est comment est-ce que cette diversité affecte le pathogène et cette maladie de la boréliose. Donc ce qu'on va faire, c'est un modèle qui contient toutes ces populations. Et puis on retire des populations et on regarde l'effet que ça a sur l'incidence de cette maladie, sur la prévalence de cette maladie. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord regarder les courbes noires, les petites barres noires ici. On va regarder, quand on retire des hôtes, comment la prévalence de l'infection va changer. Et ici, on voit que si on retire des hôtes au hasard, on va diminuer la prévalence de l'infection. Et la raison pour laquelle on diminue cette prévalence de l'infection, c'est que quand on retire les hôtes au hasard, on va bien finir par retirer cette population de souris qui est le responsable, le porteur de cette maladie. D'accord ? Donc dès qu'on retire, dès que par hasard cette population de souris disparaît des hôtes présents, l'infection va quasiment disparaître puisque c'est le meilleur hôte pour cette maladie. Malheureusement, la souris, c'est l'une des dernières espèces qu'on pense qu'on n'arrivera jamais à éradiquer sur Terre. Moi, je la trouve adorable, mais bon, c'est vrai qu'elle porte quand même des maladies assez embêtantes pour nous. Et donc, ce qui se passe, c'est que on va regarder ce qui se passe quand on retire d'autres hôtes qui sont plus prônes à l'extinction que ces souris. Qu'est-ce qui se passe cette fois pour la prévalence de l'infection ? Et cette fois, c'est les barres grises qu'on regarde. Donc, le long de ces barres grises, on a toujours des souris qui sont présentes. Et là, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est-à-dire que moins il y a d'autres hôtes présents, et plus l'infection est prévalente. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que la diversité des hôtes réduit le risque d'infection. C'est un effet de dilution. Donc, on a la source d'infection ici, et plus on a d'hôtes disponibles, moins on a de risque d'infection. Et en fait, quand ils ont fait des études sur tous les États-Unis, ils ont regardé dans différents États le nombre d'espèces présentes, de mammifères, et les incidences de cas de boréliose. Et on voit qu'il y a effectivement une corrélation très très importante. Donc, moins on a de diversité des mammifères et plus on a de maladies. Donc, cet exemple fournit vraiment un exemple où la diversité joue un rôle important pour réguler les maladies auxquelles on est soumis. Mon dernier exemple, je vais aller un peu vite parce que je vois qu'il est un peu tard. Donc, c'est la réponse à un changement global. Donc, là, ce qu'on va regarder, c'est... On va passer ça. Voilà. Je vais vous présenter cette expérience, qui est une expérience absolument extraordinaire. Donc, vous savez tous que, à cause des activités humaines, le taux de CO2 dans l'atmosphère est en train d'augmenter de façon faramineuse. Et puis, il y a aussi des additions d'azote sous forme de pluie acide et d'azote qui provient de l'agriculture sous forme de fertilisant qu'on est en train d'amener un peu partout dans tous les écosystèmes. Donc, cette expérience, c'est une expérience qui étudie l'effet de cette élévation en dioxyde de carbone et cette addition d'azote sur les communautés de plantes. Donc, ce qu'on se demande, c'est est-ce que les plantes vont être capables d'absorber ce CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère ? Est-ce qu'elles, parce que plus le CO2, c'est une ressource pour les plantes, donc plus on a de CO2, plus les plantes devraient être capables de l'absorber. Donc, c'est ce qu'on espère un petit peu pour contrebalancer tout le CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère, on espère que les plantes vont être capables de l'absorber un peu plus. Donc, c'est des expériences. Ici, c'est un diamètre de 20 mètres. C'est des expériences absolument immenses où on voit des espèces de pics, là. Ce sont en fait des colonnes qui amènent du CO2 localement. Donc, c'est très compliqué parce qu'il faut calculer la vitesse des vents pour savoir combien il faut en amener, etc., pour pouvoir augmenter sur cette parcelle la teneur en CO2 de l'atmosphère. Donc on augmente localement la teneur en CO2 de l'atmosphère pour regarder l'effet que ça va avoir sur les communautés de plantes qu'on voit ici sur des parcelles qui font 2 mètres sur 2 mètres. Et donc, ce qu'ils ont regardé, c'était l'effet de la diversité sur la réponse à ce changement global. Donc, le changement global, on va avoir 3 effets. On va avoir l'ajout de CO2 tout seul, l'ajout d'azote seul et l'ajout des deux en combinaison. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre d'espèces, plus on a d'espèces, plus on va avoir une réponse forte en termes d'augmentation de la biomasse. Donc ici, ce qu'on voit, c'est l'augmentation de la biomasse, donc la matière qui est prise par les plantes. Donc, quand il y a une seule espèce, on a une petite augmentation. Quand on a 4 espèces, on a une augmentation plus importante. 9 espèces, encore plus, et 16 espèces, encore plus importantes, ce qui montre que les communautés les plus diverses sont celles qui sont capables d'absorber ce CO2 de façon beaucoup plus importante. Donc ça se passe sur le CO2, sur l'azote, et quand les deux sont ajoutés en combinaison, on voit aussi cet effet très important. Donc j'en arrive à mes conclusions. J'espère que je vous ai présenté un petit peu ce que c'était que la science de l'écologie. Je vous ai présenté ce problème de biodiversité, la 6e extinction massive qui est en train de se produire, et puis quelques-unes des conséquences sérieuses de la perte de la biodiversité, avec cet exemple de l'Afrique du Sud, où là, c'est un exemple où la perte de la biodiversité a pu être quantifiée en termes économiques, et donc l'action a pu être prise. Souvent, la biodiversité a des conséquences dont on n'a pas trop accès en fait à sa valeur économique, et c'est là où l'action est difficile. Mais voilà, je vous remercie de votre attention et puis j'espère qu'il y aura des questions.
Oui. Plus on a de diversité d'espèces, plus ça se dilue.
Oui.
Logiquement, au contraire, plus il y a d'espèces, je penserais plus que j'ai des chances d'être contaminé, de me faire mordre par un écureuil ou je ne sais pas. Ça me paraît. C'est pas très cartésien.
Oui, effectivement. C'est parce que, là où je n'ai peut-être pas été très claire, c'est que cet agent pathogène. Il est très bien dans les populations de souris, mais par contre, dans les autres hôtes, il ne se développe pas, ou beaucoup moins bien. Et ce qui fait que s'il y a beaucoup d'autres hôtes, en fait, quand vous êtes mordu par une tique, il y a moins de chances que sa proie précédente, c'était une souris. Et si c'est un autre hôte, à ce moment-là, vous avez moins de chances d'avoir la boréliose.
Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Par rapport aux espèces envahissantes,
oui.
Que ce soit plante ou animale,
oui.
C'est sûr que l'image qu'on a, c'est que c'est mauvais, c'est négatif d'avoir la salicaire ou la phragmite dans nos fossés.
Ouais.
Mais je prends l'exemple de la moule zébrée, c'est pas nécessairement bon non plus, sauf que j'ai jamais vu les lacs qui bordent le fleuve Saint-Laurent aussi clairs. Est-ce que, selon vous, à long terme ou à moyen terme, l'arrivée d'espèces envahissantes comme ça pourrait atteindre un niveau où ils ont épuré leur... ils ont fait, comme on pourrait dire, leur job? Puis ils pourraient, malgré qu'ils n'ont pas de prédateurs en avant, à un moment donné, ils pourraient... leur population pourrait descendre. La moule zébrée, peut-être c'est ce qui va se produire. Je ne sais pas. Je vous lance la question.
C'est bien possible, mais... l'autre question qu'il faut... À long terme, effectivement, c'est ce qu'on prédit, hein, que s'il y a une population très importante de moules, il va bien finir par y avoir des parasites qui vont s'adapter à cet hôte et peut-être même des prédateurs, etc. Le problème, c'est combien de temps ça prend, et puis quelles autres espèces vont en pâtir, en fait. Donc... ce qui se passe, c'est que on peut avoir des extinctions. Enfin, les espèces invasives causent énormément d'extinctions, d'espèces qui ne sont présentes que localement. Ça peut avoir des conséquences ou pas. C'est une perte de biodiversité, donc c'est une perte de potentiel de nouveaux médicaments ou de choses comme ça. Ça peut aussi avoir un effet sur le fonctionnement de l'écosystème. Et donc là, il faut voir, est-ce que c'est des conséquences qui sont plutôt néfastes pour nous ou des conséquences qui sont plutôt bénéfiques. Ce n'est pas toujours évident de connaître, de prédire les conséquences avant que ce soit trop tard, en fait.
C'est ça, parce que l'image qu'on a généralement, c'est ça que ça déplace à l'éliminer en certains... Moi, je connais bien le lac Saint-François, puis je veux dire, les moules, la moule indigène, il n'y en a plus.
Ouais.
Et là, ce que les coquilles.
Ouais.
Mais comme je dis, c'est ça, l'eau du lac n'a jamais été aussi claire, aussi bien filtrée.
Ouais.
Puis la phragmite, c'est un peu la même chose dans les fossés, dans les cours d'eau. C'est à cause d'un débalancement des écosystèmes qu'on a fait. Je veux dire, on pollue, en quelque part, ben, on récolte ce que l'on sème. Fait que ces organismes-là sont peut-être là justement pour essayer d'équilibrer les dégâts qu'on fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils naissent d'un déséquilibre.
Effectivement, ils naissent d'un déséquilibre. Et c'est aussi souvent dû aux conditions des écosystèmes qu'on va changer, c'est-à-dire qu'on crée de nombreuses perturbations. Donc on va tout déboiser pour créer des espaces pour l'agriculture. Ça crée des espaces qui sont favorables à certaines espèces. Et le problème, c'est que c'est un petit peu toujours les mêmes espèces qu'on favorise. Et donc c'est des espèces qu'on va retrouver maintenant sur toute la surface du globe, au détriment de tout le reste, de toutes les autres espèces qui existaient. Est-ce que ces espèces invasives vont contrebalancer d'autres effets négatifs de ce qu'on fait? Ben, pas toujours. Par exemple, cet exemple d'Afrique du Sud, ça montre bien que là, les espèces invasives ont un effet très néfaste pour les populations humaines par rapport à cette disponibilité en eau. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ah ben ça, oui. Effectivement.
Merci.
J'aurais
une autre question.
Oui.
L'exemple de la régularité de variation des courbes de présence de proies et de prédateurs,
ouais,
c'est satisfaisant parce qu'on voit apparaître une sorte de loi. L'exemple dont on parlait de la tique, la dilution, on voit s'esquisser une sorte de loi. Quand on parle de du CO2 et de l'azote et puis de la diversité des plantes, on voit apparaître aussi quelque chose qui pourrait être une loi. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que cette écologie théorique est extrêmement démarche extrêmement séduisante. Mais vous faites face à une telle complexité de paramètres que vous êtes encore un peu court sur la théorie.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est une science passionnante aussi, parce que c'est une science qui est en expansion et où on a énormément de questions qui restent ouvertes. On a encore énormément de choses à expliquer. Et comme vous dites, c'est difficile dû à la complexité des systèmes. Et donc, ce qu'on cherche à faire en écologie théorique, c'est effectivement d'essayer de conceptualiser, de formaliser ces généralités, comme vous dites, qu'on a vu apparaître pour plusieurs des exemples. Mais c'est vrai qu'il nous reste encore pas mal de boulot à faire. Donc,
L'exemple de Malthus est l'exemple par excellence d'une déduction que l'histoire a contredit. Et constamment, on peut se demander, c'est beaucoup le débat écologique actuellement, hein, dans quelle mesure il ne va pas y avoir des adaptations qui vont avoir des effets bénéfiques. Est-ce que ce n'est pas une histoire permanente de l'évolution de la vie? Est-ce qu'il n'y a pas nécessairement des divergences qui vont avoir... Alors, on a un peu tendance à diaboliser le prédateur humain. Et évidemment, il est très envahissant, d'une façon exponentielle actuellement. Enfin, pour un temps, mais on peut comprendre qu'il y ait des imbéciles qui affirment le contraire de ce que vous dites, parce que c'est très difficile d'être, rien que sur les écosystèmes climatiques, c'est extrêmement difficile. Actuellement, il y a une tendance très forte qui s'affirme, bien sûr. Mais bon, les éruptions solaires, les cycles à long terme, est-ce que le réchauffement de la planète finalement n'aura pas des effets positifs? Moi, je trouve qu'au Québec, on peut en discuter. Il y a bien des questions où c'est très passionnant de voir quelqu'un comme vous qui essaye d'élaborer une théorie, parce qu'il faut bien commencer par le début. Mais effectivement, on se rend compte que ça vous prend de la persévérance.
Ah ben ça c'est sûr, et c'est vrai qu'on a aussi tendance à ne pas regarder les choses en face tant qu'on n'a pas le problème vraiment devant les yeux. Ce qui se passe par rapport au changement climatique est assez révélateur. Moi, j'ai passé un hiver au Québec, c'est vrai que depuis que j'ai passé un hiver au Québec, je me dis que finalement le changement climatique... C'est pas si mal par ici, mais ce qu'il faut voir, c'est les conséquences un peu plus globales que ce réchauffement climatique a, parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, 3 degrés en plus, après tout, c'est pas plus mal. Ce qu'il faut voir, c'est les conséquences de ces 3 degrés sur les productions agricoles, sur la disponibilité en eau de énormément de populations humaines. Par exemple, on peut relier certains génocides en Afrique avec des problèmes de changement de climat ou des sécheresses dues au changement de climat limitent le nombre de ressources disponibles. Et à ce moment-là, ça crée des conflits et des tensions au niveau social qui sont assez effrayantes. Donc ce qu'il faut voir, c'est pas simplement les conséquences en termes, 3 degrés en plus, mais c'est les conséquences sociales que ça a sur les populations humaines et surtout les populations humaines dans les pays en développement. C'est la même chose pour la biodiversité, c'est là où il y a vraiment des systèmes qui sont encore plus... qui vont souffrir beaucoup plus de conséquences que ce à quoi nous on s'attend, qui sommes un peu moins dépendants des ressources d'agriculture, quoique. Donc c'est...
S'il n'y avait pas eu des désertifications, phénomène que nous redoutons actuellement dans la mesure où ça pourrait s'augmenter, on n'aurait pas les Bédouins, on n'aurait pas les Touaregs, on perdrait pour la diversité culturelle.
C'est vrai, en fait, on peut réfléchir à différentes échelles de temps par rapport à ça. Et là, vous nous proposez une échelle de temps qui est extrêmement longue, en fait, où il y a une adaptation culturelle, ça peut aller relativement vite, quoique, une adaptation des espèces au changement de climat auquel on fait face, etc. Et ça, effectivement, la vie, elle va toujours se débrouiller. Avec ou sans population humaine, il n'y a pas de problème. Même les humains, ils vont continuer. Enfin, sauf catastrophe nucléaire, a priori, avec ou sans civilisation. Je pense que les conséquences qu'on a au niveau écologique en termes de changement de climat et de perte de la biodiversité sont quand même des conséquences qu'on ne peut pas prendre à la légère sur le bien-être de nombreuses civilisations et populations humaines. Donc, à la fin, tout va s'adapter à ce qui se passe, sauf si on a des phénomènes d'emballement, où plutôt que 3 degrés, ça va devenir 12 degrés, etc. Ça, c'est aussi des possibilités. Surtout quand on est autour des pôles de la planète, là, on prévoit des changements beaucoup plus importants de température, par exemple. Donc.
C'est comme si l'écologie acceptait pas le changement, parce que si c'est comme une science du non-changement. À chaque fois qu'il y a un petit changement, on vient de bouleverser un tas de choses. Est-ce que dans vos modèles que vous avez déjà travaillés, il y a eu des changements qui ont été positifs et qui peuvent annoncer quelque chose de positif, là? On est au réchauffement climatique, mais si on était au refroidissement climatique, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de changement. Parce que le refroidissement climatique va nous apporter autant de problèmes que le réchauffement. Donc, il faut qu'on reste. Donc, il faudrait qu'on stabilise la population ou qu'on fasse des choses qui ne nous intéressent peut-être pas. C'est comme si ce changement-là, écologiquement, là, on est toujours dans quelque chose qui est négatif.
Ben, c'est un bon argument, ça. Et effectivement, je pense que en écologie, on ne veut pas que tout reste statique. On étudie les dynamiques des écosystèmes, donc c'est quelque chose qui est dynamique, qui est en changement. Mais ce qu'on étudie aussi, c'est les phénomènes de régulation. C'est-à-dire comment est-ce qu'un système va rester dans des limites où la vie peut se maintenir et où la vie peut se maintenir à un certain niveau. Parce que, effectivement, la température, bon, ben, on est très bien entre... ici, on a des hivers bien rudes, on a des étés bien chauds, on arrive à survivre, mais s'il y a des changements trop importants de température, on arrive dans des systèmes où ça devient beaucoup plus difficile de survivre. Et donc, notre niveau de vie va en souffrir. Donc, c'est ça qu'on étudie. C'est qu'est-ce qui régule cette planète sur laquelle on vit. Par exemple, il y a des études qui montrent que le taux d'oxygène dans l'atmosphère est resté constant pendant extrêmement longtemps. Et ça, c'est assez extraordinaire. On ne comprend pas tout à fait bien comment ça se fait. Parce que cet oxygène sur la Terre, il est entièrement dû à l'activité des plantes. Donc, sans vie sur la Terre, il n'y aurait pas d'oxygène. On serait dans une atmosphère, justement, de dioxyde de carbone et de nitrate absolument affreux. Il n'y aurait pas d'oxygène. La vie a commencé dans des conditions où il n'y avait pas d'oxygène. Donc la vie, on espère bien qu'elle va s'adapter à des conditions où il n'y a pas d'oxygène. Mais quand même, pour nous, c'est important qu'on reste dans des conditions qui soient les plus bénéfiques pour notre bien-être, en fait.
Et si je suis au milieu de l'Atlantique, alors je manque d'oxygène, il n'y a pas de plantes, et puis je vais m'asphyxier?
Eh bien, en fait, le taux d'oxygène est extrêmement bien réparti sur toute la planète. La circulation atmosphérique fait qu'il n'y a pas trop de danger de ça. Ce qu'on peut voir qui est assez rigolo, c'est les fluctuations de dioxyde de carbone selon la latitude et les saisons, etc. Donc il y a effectivement des petites fluctuations, mais bon, pas suffisamment pour que vous ayez le tournis au milieu de l'Atlantique. Oui.
C'est assez fascinant, une science en évolution comme ça, l'écologie théorique. Ça fait la deuxième fois que je vous en entends parler, puis je trouve ça vraiment intéressant. Mais je me dis, pour une théorie qui fonctionne, pour une formule mathématique comme les trois que vous avez montrées ce soir, il y en a sûrement qui meurent au bataillon, qui se retrouvent au pays imaginaire des formules. Et puis, je me demande, qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine de travailler sur un ou l'autre sujet? Qu'est-ce que c'est les priorités là, des spécialistes en écologie théorique? Qu'est-ce que c'est des priorités géographiques, des priorités thématiques? Qu'est-ce que des critères de base qui méritent qu'on ne travaille pas pour rien sur des formules qui serviront pas finalement?
Finalement, c'est un peu tout le problème de la science fondamentale. On essaye de comprendre les systèmes, on formule des hypothèses, on essaye de bâtir quelque chose. Ça va marcher ou ça ne va pas marcher, mais on espère que dans le tas de tous ceux qui travaillent sur le sujet, on va finir par trouver quelque chose qui marche et qui peut nous donner des généralités auxquelles on aspire. Je pense que c'est la même chose dans toutes les sciences. Les lignes de force en ce moment, c'est effectivement les changements globaux, donc changement climatique, perte de la biodiversité. Ça, c'est des thèmes forts en fait pour lesquels effectivement il y a beaucoup de ressources qui sont mises à la disposition des chercheurs pour étudier spécifiquement ces problèmes qui sont reconnus comme des problèmes de société. Donc en fait, on est un peu conduit par les thèmes reconnus par la société dans ce domaine. Mm. Oui.
Est-ce que dans les modèles que vous étudiez, vous en faites un si l'humain disparaissait, qu'est-ce qui arriverait?
Ça, ce serait un bon modèle à faire, je n'ai pas fait. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont regardé ça. Regarder, par exemple, une ville, s'il n'y a plus d'humains, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez impressionnant parce qu'effectivement, en quelques années, il ne reste plus grand-chose, finalement. Tout est repris par la nature assez rapidement. Mm. Mais c'est vrai que là, on arrive à des changements globaux qui sont tellement importants, on n'est même pas sûr que d'arrêter va arrêter, par exemple, ce phénomène de réchauffement climatique. On n'est même pas sûr que ça arrête, même si on arrêtait toutes les émissions de CO2. Donc,
En écologie théorique, quels sont les... point de vue des modèles et des concepts, quelles sont les métaphores que vous utilisez le plus? Autrement dit, je vais dire ça autrement. Est-ce que vous considérez ça comme bio-organique, ou bien est-ce que vous avez vous développez une théorie, on va dire, quantitative, statistique et quasiment cybernétique, ou bien est-ce que vous êtes dans des phénomènes. Est-ce que vous arrivez à développer une théorie spécifiquement écologique?
Ben, en fait, on a un peu toutes ces approches en écologie. Donc, il y a des approches holistiques qui considèrent la Terre dans son ensemble, avec la régulation de phénomènes comme la température, la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, la salinité des océans, etc. quoi. On a des approches... L'approche favorisée en écologie théorique, c'est une approche au niveau de l'individu. Donc on part, par exemple, de données démographiques au niveau des individus pour ensuite construire ce qui se passe au niveau de la population, au niveau des interactions entre populations, etc. On a des approches donc, comme le modèle que je vous ai présenté, où c'est une approche très mécaniste, où on fait rentrer des mécanismes dans le modèle, les proies qui rencontrent les prédateurs, etc., pour prédire des dynamiques de population. On a aussi des approches statistiques pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un endroit donné, prédire les effets de différents facteurs, interpréter des résultats d'expérience, etc., quoi. L'écologie essaye d'allier un petit peu toutes ces approches pour former une image globale. Je pense que ça répond à votre question.
Interdisciplinaire.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Multidisciplinaire. Plutôt multi.
Bien, s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup à tous.